Bon, ma scie musicale, je sais pas si c'est l'altitude qui la rend difficile.
Radio Royan vous présente Colportage, un feuilleton radiophonique itinérant sur le massif du Vercors.
L'eau contenue dans ce verre provient d'une source merveilleuse et unique.
Simon Gauthier, conteur québécois et l'association Passeur d'Histoire, vous emmène d'Engin à Léoncelle pour un voyage chargé d'histoire avec les chevaux du Vercors. Écoutez et laissez-vous porter.
Allez, ça grimpe un petit peu là. Hein.
Ça, il y a deux noms. Il s'appelle le baleinophone. Je pourrais appeler les baleines dans le cosmos. Et si vous êtes patient, ça arrive. Ah oui, ça arrive par dizaines. La plupart du temps, puis facilement 20, 40. Là, tu dis « wow ». Mais c'est les gens qui arrivent. J'ai un défaut de fabrication, les baleines... Mais le monde répond. Alors, je me mets sur un cap, et puis j'appelle les baleines. Hein, tu sais, les artistes, on est toujours en recherche du public. Là, je fais... Puis là, les gens arrivent. C'est comme ça. Mettons comme ça. Là, je suis seul. Là, je me retourne. Hop, là. Facile. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut... Tu sais, ça danse sur les lèvres, là, ça brûle. Puis il va poser la question, homme, femme, peu importe. Il dit, vous appelez les baleines? Ben oui. Et là, les gens veulent, tu sais, entreprendre la discussion. Puis à chaque fois, je fais... Chut. Alors... Puis ça leur donne de l'espoir. Je sais pas si les baleines vont venir. Mais moi, après, tu sais, 20-25 minutes, j'ai chanté, j'ai baleinophoné. Puis après ça, ben je leur dis, ben, excusez-moi... Ouais, je suis attendu. Hey. Ouais. Ouais, je dois y aller. Bonne journée. Fait que je laisse 40 personnes sur un cap de roche. Et s'il y a une baleine qui ose venir dans les 10 prochaines minutes, là, je passe pour un demi-dieu. Là, ils cherchent tout le gars baleinophone. Le gars qui appelle les baleines. Fait que moi, écoute, la renommée. Je sais plus où la mettre, là. Mais on s'amuse. C'est de la poésie, hein? Faut réenchanter le monde. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une société technocratique, donc vite, rapide, comment, let's go, merci, bye. Non, faut prendre le temps de réenchanter. Oui, une autre question, oui.
C'est quoi le deuxième mot?
Je pensais que t'allais l'oublier. Le premier nom, c'est... il a été baptisé, mais il le demeure, hein? Moi, je m'appelle Simon, mais... Mon premier nom, c'est Joseph. Joseph Damien Paul Simon. Mais tout le monde pense que je m'appelle Simon, mais c'est Damien. Alors, le premier nom, c'est Celestium. Donc, le céleste... Ium. Fait que c'est les deux noms. Fait que le Celestium, si vous voulez caler les étoiles, ou si vous voulez caler les baleines, ben c'est le baleinophone. Mais ça demeure le même instrument. C'est l'intention. qui est porté dans le tube. Et c'est 65 cm de mystère. Ça, je peux pas te le dire. Hey, mais j'ai une question pour vous. Pour ceux qui étaient là. Le 19 ou le 20 juillet, ou le 21, je me rappelle plus. Mais quand ils ont posé le pied sur la Lune, là, où c'est que vous étiez?
Devant la télé.
Devant la télé. Dans le ventre de ta mère.
Dans le ventre de
Il y en a d'autres qui étaient en train de faire d'autres tâches.
Je lisais le capital.
Comment?
Je lisais le capital.
Tu lisais le capital? C'est quoi ça?
J'avais un an.
T'avais un an? OK. Tu sortais juste des bulles de l'amour, toi, là. OK. Sinon, ceux qui se rappellent vraiment, où c'est que vous étiez quand ils ont mis le pied sur la Lune? La télé, parce que... Oui, c'est ça, parce que nous autres, il y a 6 heures de décalage, fait que c'est pas le même ciel. Ici, c'était quoi? Vous étiez où, donc? Dans le jour ou la nuit?
La nuit, 11 heures du soir.
11 heures du soir, la nuit. Wow! Ah ben, Colin. Bon, c'est le même. C'est juste une petite question. Des fois, il a dit, « Hey, moi, je suis en train de faire des affaires pas possibles. » Fait que c'est ça. Fait que la conquête de la Lune. Hein, puis c'est le ciel qui ovule la Lune. Hein, c'est une ovulaison. Une lunaison. Ovulénaison. Et puis un jour, l'univers va être fécondé. Hein, vous le savez, ça. Il va se passer quelque chose. Là. Ça va être monumental. Et puis... Il y avait eu fécondation. Tiens, toi. Puis quand le petit est né, là, je ne vous parle pas d'Isidore Bezos. Je vous parle d'un autre. Je ne sais même pas c'est quoi son nom. On l'appelait Point Fermé. Parce que quand Point Fermé est né, eh bien, il y avait un point fermé. Puis tandis que l'autre était ouverte et agile comme un pianiste, on avait l'impression que c'était une main de magicien. Puis sa jumelle était tout le contraire. Tac! Comme pétrifié, vitrifié, comme ça l'avait été charbonisé. Fait que le père, quand il a vu ça, tu sais, sa mère, sa femme, qui était belle comme un rayon de soleil, était perlée de tout le travail puis le labeur qu'elle avait donné. C'est comme des perles de rosée, puis elle avait un sourire pour présenter son garçon. Puis quand le père a vu ça, ben lui, il a pris la main en disant, non, non, pas un handicapé. Puis il a quand même, parce que c'était les champs, tu sais, c'était le travail, la ferme, c'était... Il se disait, non, pas. Puis, non, tu vas t'ouvrir. Puis il a eu beau forcer, puis sa femme, il a fait comprendre qu'il donnerait ce qu'il y aurait de meilleur, puis ça serait de l'amour. Il était né comme ça, puis il devrait l'accepter demain. Fait que les années ont passé, puis Point Fermé quand même, il est un bon travailleur. T'sais. Point Fermé, ferme la barrière, puis apporte la faux, puis amène ça aux hommes qui sont en haut en train de faucher le champ, puis tu rapporteras le bidon vide, puis Point Fermé fait ci, puis Point Fermé fait ça. Puis l'éveillé, ben, il y avait un piano dans le coin. Et Point Fermé, il avait beau être handicapé, mais quand il se mettait au piano, la main qui lui restait, là, il jouait ce que 4 mains n'étaient pas capables de réaliser en mélodie. Il épatait la galerie. Il faisait des tours de magie, des tours de passe-passe. C'était pas mal plus vite que l'œil. Et tout le monde était toujours souriant devant la finesse, puis devant l'élégance du jeune Point Fermé. Et quand il a atteint l'âge de 10 ans, il revenait des champs. Il a laissé le seau dans le coin, il est rentré dans la maison. Il est allé voir sa mère qui est en train d'éplucher des patates pour le repas de ce soir. Et puis, il a dit, « Maman, je vais te faire un cadeau. » Et devant sa mère, les doigts ont commencé à se détendre. Elle a vu apparaître l'index qu'elle n'avait jamais vu. Puis suivi du majeur, puis go, l'annulaire, puis l'auriculaire qui suit, puis entre le pouce puis l'index, À la grande surprise de sa mère, il y avait un anneau d'or. Il l'a laissé sur la table en lui disant « cadeau ». Hey, la mère, là, elle a lâché la pomme de terre. Hey, le couteau est tombé, puis elle est sortie. Puis les gens qui étaient à l'horizon, comme on dit par chez nous, hein, quand tu partais au champ, c'était tellement loin que les gens, le matin, disaient « on s'en va au large ». Ben, elle faisait des sparages, des « je m'as-tu vu ». Et puis, les hommes et les femmes qui étaient en train de travailler étaient sûrs et certains qu'il y avait eu un accident épouvantable, que le feu était peut-être pris en quelque part. Fait qu'ils ont descendu, ils ont accouru. Mais non, c'était tout le contraire. Point fermé, venait de retrouver sa liberté. Toutes les prières que l'homme et la femme avaient faites, enfin, avaient été entendues. Et puis, il recevait la levée, hein, la fin du calvaire. Il y avait la bénédiction. Fait qu'ils ont chanté, sorti des violons, dansé. Ils ont vite préparé le repas. Puis, le jeune point fermé a quitté les festivités. Il est allé se coucher dans son lit. Puis, il était bercé par les effluves de la musique. Et comme le sommeil le prenait pour l'amener dans le pesant, ben il se rappelait très bien le jour de sa naissance. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous autres, mais lui, oui. Très bien. Il se rappelle très bien les mains de la sage-femme qui l'avait accueilli, remis dans les mains de sa mère qui l'avait collé contre son ventre puis son sein. Le père qui était rentré bien consterné par ce qu'il voyait. Mais lui, il n'a jamais lâché d'un œil la sage-femme. La sage-femme avait repris les draps, hein, souillé, avait mis ça dans une poche, elle avait rebombé légèrement l'oreiller, puis elle voulait vraiment pas, elle voyait bien que le couple était affligé, fait qu'elle s'est faite petite comme une souris, puis elle a sorti, puis elle comprenait pas son alliance de mariage. Il était même pas né que déjà dans le ventre de sa mère. Il avait commencé à voler.
Colportage, un feuilleton radiophonique itinérant avec Simon Gauthier, conteur québécois, et l'association Passeurs d'Histoire, d'Engin à Léoncelle.
Le plus grand voleur que la Terre a porté sur son dos, ben vous venez de le voir naître. Et à 12-13 ans, il voyait son père éreinté, essouché, épierré, dépierré, puis le labeur que demande la terre, puis le travail, puis la rigueur. Et lui, à 13 ans, ça a été clair dans sa tête. Il mettrait à profit le don que le bon Dieu lui avait confié. Et vite, il a quitté la ferme familiale et il a commencé à voler. Mais il volait tellement vite, tellement bien, que quand tu lui donnais la main, là, eh bien, les gens, vite, se recomptaient les doigts pour être sûr et certain qu'il ne leur en manque pas. Il était tellement habile, il était tellement agile. Il faisait ça avec art puis douceur, que tu faisais 8 pas, puis soudain, tu avais une petite bouffée d'air qui venait te faire « ouh » dans le fond du cou. Tu allais voir si ton portefeuille était toujours... Tu t'étais fait plumer. En un sourire cordial, eh bien, l'oiseau s'est envolé avec. Il volait tellement bien, il détroussait la diligence à tous les dimanches, jamais à la même place. Et puis, il faisait ça avec tellement de, je dirais, de classe puis de tact que les gens... Bon, je vais en mettre un peu, mais il était quasiment honoré de se faire détrousser par ce qu'on avait appelé le plus grand voleur. On l'appelait maintenant le faucon blanc. Le faucon blanc, il volait tellement bien. Il volait tellement vite. Il volait tellement haut que le faucon blanc commençait à faire ombrage sur le visage du roi. Ah, le roi, là, il ne savait plus où donner de la tête. Il entendait, mais que fait le roi? La banque! Et puis, la diligence! Mais qu'a fait le roi? Puis le roi, il avait envoyé la moitié de sa garnison, les gendarmes, les détectives, il payait des pots de vin. Honnêtement, là, c'était pratiquement du vol. Il était rendu à dépenser. C'était phénoménal. Mais le jour où le faucon blanc s'est fait pendre et a été laissé dans une poche de jute au pied de la maison du roi, gros château. Mais le roi, il demande à son conseiller d'aller voir, et quand le conseiller ouvre le sac de jute, c'est le faucon blanc. Le plus grand voleur a été livré. Alors le roi jubile. Le roi fait battre la nouvelle qu'il va y avoir une sentence exceptionnelle, mais une sentence juste. Et ça va être à 2 heures dans l'après-midi. Puis le faucon blanc est enchaîné à un pieu dans la poussière et les gens, doucement, s'avancent, s'approchent et puis ils voient la légende. La légende qu'ils ont tellement entendu parler est à genoux devant eux. Fait que les enfants tentent de regarder à travers les jambes des mères puis l'ange du père. Puis les marchands, eh bien, il paye le bourreau pour qu'il lui donne une taloche ou un coup de pied en arrière. Pouf. Puis les marchands sont tellement heureux, ils renvoient encore des pièces pour qu'il déchire sa chemise. Puis le bourreau, lui, pendant que c'est la folie, ben il fait ce que les gens demandent, il déchire la chemise du faucon blanc. Et alors le silence tombe parce que le roi vient de se lever. Alors le bourreau se met tranquille. Le faucon blanc regarde le roi, puis le roi lui dit « Faucon blanc, pour tes méfaits, pour avoir ri de la justice, ri de mes lois, je te jure que moi, le roi ici, maintenant et présentement, je vais te faire passer le goût du vol. Bourreau! Sans coup de bâton! Juge! Un. Juge! Juge! 99. juge sang. S-A-N-G. Est-ce que le goût du vol te serait passé, faucon blanc? Puis le bourreau relève la tête, et puis l'homme avait les yeux piqués, piqués de rouge, embués par la douleur, il y avait les flancs violacés. Ô roi! Je vois que tu es un homme sans classe ni manière. Et je réalise aujourd'hui que l'intelligence qui est dans ta tête est la même que l'on retrouve dans ton gros derrière. Et je te jure que jusqu'à mon dernier souffle, rien ne me fera passer le goût du vol. Le roi est en train de perdre la face. Il y avait un silence dense. Et puis il voyait bien dans les yeux des gens qui étaient réunis des clairs obscurs d'amour, des gens pour le faucon blanc. On voyait de l'honneur, on voyait reluire de l'attachement. Alors le roi le fait passer à la roue, t'sais. On l'a passé au pilori. On l'a passé pratiquement à l'écartèlement. On l'a fouetté, puis à chaque fois, le roi demandait « Est-ce que le goût du vol, faucon blanc, te serait passé maintenant? » Je te jure que rien ne me fera passer le goût du vol. Ainsi soit-il. Qu'il soit crucifié! Et puis ils ont sorti les planches, les marteaux, les clous. Et puis ils ont plaqué par terre le faucon blanc qui a reçu, et dans les poignets, et dans les pieds, puis le coup de barre de fer pour fracasser les tibias, afin qu'il ne puisse pas s'appuyer comme tous les crucifiés du monde. Et puis la croix est élevée dans le ciel, et dans le beau halo bleu, on voyait sa silhouette. Et la crucifixion est une torture lente, souffrante. C'est les muscles qui se distendent, et qui viennent doucement compresser la cage thoracique, doucement compresser les poumons, et c'est mourir sous son propre poids, étouffé par soi. Et ça prend 3 jours et 3 nuits. Et la 3e nuit, où le faucon blanc sentait doucement la mort, lui, nouer les veines, que des échos se faisaient entendre au-delà des cieux, il voyait son fils à ses pieds, sa femme, qui l'ont accompagné tout le long du supplice. Et dans cette nuit, les sabots de chevaux les roues en bois d'une charrette. Un marchand perdu qui s'est fait surprendre par la noirceur. Alors, dans la ville, il rentre, s'en va vite sur la place publique. Question de trouver une auberge, un endroit pour dormir. Et puis, il voit la femme avec un jeune garçon, puis un supplicié. Alors, il s'approche, puis il demande « Qu'est-ce que cet homme a fait? » Puis la femme du Faucon Blanc lui explique qui il est. Et le marchand, qui avait bien entendu parler de la légende, avec ses confrères, avec tous ceux qui s'étaient fait détrousser, lui dit « T'as pas honte d'avoir vécu comme t'as vécu? D'avoir volé, usurpé, d'avoir dérobé les honnêtes gens comme moi? » Des gens qui travaillent à la sueur de leur front. Te voilà bien récompensé, Faucon Blanc. Bien récompensé. Tu vas laisser dans la misère ton fils et sa mère. Bravo, Faucon Blanc. Bravo. Garde de ta salive. Et tes bons sentiments, tes conseils, je n'en ai rien à faire. Il est vrai, homme, que j'ai vécu, que j'ai volé. Il est vrai. Mais sache aujourd'hui que je suis riche. Et si tu as un peu de pitié, non pas pour moi, mais pour ma femme et mon fils, alors... Peux-tu aller dans le puits que tu vois derrière toi? Il est vide. Descends. Et tu trouveras tout au fond un coffre rempli d'or, d'argent, d'opale et d'autres pierres précieuses. Garde la moitié pour toi. Mais l'autre part, qu'elle soit remise à ma femme. Ainsi, mon fils pourra avoir une éducation décente. Et le marchand, ainsi soit-il. Marché conclu. Et descendu dans le puits. Et pendant qu'il descendait, la femme du Faucon Blanc lui disait, Mais pourquoi tu lui as révélé pareille existence? Mais tu as perdu la tête. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? À moi, j'y aurais été. J'aurais pris l'entièreté du trésor. Nous aurions eu de quoi vivre le restant de notre vie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu lui as révélé? Trésor? Mais il n'y a pas de trésor, ma femme. Dépêche-toi. Pendant que le marchand est au fond du puits, prends sa charrette, sa marchandise, ses chevaux, et fuis. Tu auras de quoi vivre longtemps. Et quand le roi demain matin se lèvera sur le royaume, il saura que j'aurai eu, jusqu'à mon dernier souffle, le goût du vol.
Radio Royan vous a présenté Colportage, un feuilleton radiophonique itinérant d'Engin à Léoncelle avec Simon Gauthier, conteur québécois, et l'association Passeurs d'Histoire. Rendez-vous dans une semaine pour la suite de cette aventure.